France Inter.
Bonsoir, dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, Élisabeth Louise Vigée-Lebrun, peintre du siècle des Lumières. Le 5 octobre 1789, le jour même où le roi et la reine sont amenés de force de Versailles à Paris, Élisabeth Louise Vigée-Lebrun, la peur au ventre, embarque dans une diligence avec sa fille de 5 ans, sa gouvernante et seulement 20 francs en poche. C'est le début d'un long exil qui ne se terminera que sous l'Empire. Mais pourquoi cette artiste qui ne possède ni château ni titre de noblesse doit-elle ainsi fuir la Révolution française déguisée en ouvrière ? Élisabeth Louise Vigée-Lebrun n'est pas noble, mais pour ses contemporains, son nom est indissociable de la monarchie. D'origine modeste, cette artiste surdouée est en effet devenue très jeune la peintre attitrée de Marie-Antoinette et la portraitiste géniale que toute la cour s'arrache. Célèbre, riche, travailleuse acharnée, Élisabeth Louise Vigée-Lebrun fait partie de ces femmes qui, sous le règne de Louis XVI, se sont imposées dans le monde de l'art et des lettres. Un monde perdu dont elle gardera longtemps la nostalgie. Les femmes régnaient alors, disait-elle. La Révolution les a détrônés.
France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire.
Emmanuel de Varesquiel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, spécialiste de la Révolution, de l'Empire et des monarchies constitutionnelles françaises. Alors, c'est en discutant avec vous lors d'une précédente interview que vous m'aviez suggéré l'idée de parler des femmes. Ces femmes qui ont joué un rôle important au siècle des Lumières, un rôle culturel, social et aussi politique. Et c'est donc à l'une d'elles, et non des moindres, que je consacre donc Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui. Alors pour commencer, Emmanuel de Varesquiel, j'aimerais que vous me parliez d'Élisabeth Louise Vigée-Lebrun à partir d'un de ces tableaux que vous avez sous les yeux. Est-ce que vous pouvez nous décrire ?
Malheureusement, pas l'original. Il est à la National Gallery à Londres. C'est un tableau de 1782. C'est un de ses premiers autoportraits. Et en réalité, ce n'est pas le premier tableau de rupture dans la façon de représenter les femmes, mais c'en est un, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un tableau peint au naturel.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Elle ne se représente pas de façon historisée, dans un décor de colonnes ou à l'antique, en vestale ou en muse ou en nymphe ou en protectrice des arts. Elle se représente en peintre. Elle a une palette de peinture à la main et c'est un des premiers autoportraits féminins d'artistes. Et elle se représente sur un fond neutre. C'est un fond balayé, de ciel balayé de quelques nuages, mais ce n'est pas un fond de paysage comme on représentait jusqu'alors les femmes. Elle se représente au naturel aussi parce qu'elle se représente non pas en chemise, mais dans un décolleté de quelque chose qui pourrait s'apparenter à ce qu'on appelait à l'époque un déshabillé, c'est-à-dire quelque chose qui relève de l'intimité féminine. Elle est coiffée, ses cheveux sont au naturel, elles ne sont pas poudrées, on sait qu'elle détestait, comme Jeanne du Barry, qui a été l'un de ses principaux modèles avec Marie-Antoinette, qu'elle détestait la poudre et le rouge, qui étaient les attributs féminins à la cour à l'époque, et elle est coiffée d'un grand chapeau de paille garni d'une couronne de fleurs. Donc, c'est le naturel,
très jolie,
c'est le naturel, oui. Et la nature, et c'est la femme dont on a libéré le corps. C'est un portrait de femme libre, voilà. Et c'est en cela qu'elle est, au même titre que le Déjeuner sur l'herbe de Manet ou que les Demoiselles d'Avignon de Picasso en 1907, que ce portrait, que cet autoportrait est révolutionnaire. Et il dit beaucoup de ce qu'a été, pour reprendre une expression latine utilisée par Marc Fumaroli dans un très petit, très joli essai qu'il a consacré à Élisabeth Vigée-Lebrun, elle représente ce qu'on appelait le mundus muliebris, le monde de la femme, qui était si présent, sinon omniprésent, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle et qui, en effet, sera remis en question pour toutes sortes de raisons dont on va peut-être parler par la Révolution.
Il y a une grâce dans ce tableau, le visage de cette femme, ce sourire qu'elle a, un regard magnifique,
très
belle lumière.
À la lumière, très attentive à la lumière. Elle a un don interpréter la façon dont la lumière se réfléchit sur la peau des femmes. Quand elle parle d'ailleurs d'un de ses modèles, elle insiste beaucoup sur la transparence de leur peau. Vous savez que la mode était aux peaux blanches et non pas aux peaux bronzées. Ça, c'est beaucoup plus tard, après la Seconde Guerre mondiale. Et on le retrouve dans tous ses portraits de femmes, cette espèce d'extraordinaire lumière réfléchie sur la peau de ses modèles, sur le visage de ses modèles, et quelque chose d'une grâce absolue.
Elisabeth Louise Vigée Lebrun, donc née en 1755, a été une artiste adulée en France sous le règne de Louis XVI, mais elle sera oubliée au XIXe et au XXe. Il faut attendre 2015 pour qu'elle ait une grande rétrospective au Grand Palais en France, et c'est ahurissant.
Elle aura une période de purgatoire, comme beaucoup d'artistes femmes de la fin du XVIIIe siècle, pour des raisons de renversement des rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes, opérés par la Révolution française, et qui va se poursuivre au cours du XIXe siècle. Mais elle commence à réapparaître dans la littérature, notamment avec Sainte-Beuve et avec quelques autres qui s'attachent à elle et qui consacrent des textes magnifiques sur elle, les frères Goncourt en particulier, qui ont beaucoup écrit sur elle. Mais c'est ce monde féminin du XVIIIe siècle réapparaît seulement dans la seconde moitié du XIXe siècle et encore plus tard du point de vue des rétrospectives et de la peinture.
Emmanuel de Varesquiel, on se retrouve dans une trentaine de minutes pour poursuivre cette discussion, si vous voulez bien.
Avec plaisir.
Tout de suite, Elisabeth Louise Vigée Lebrun, peintre du siècle des Lumières, un texte de Christelle Mouchard, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire, réalisation Cédric Aussir.
Ne pas montrer ma peur. Restez calme. Demain, la diligence aura passé la frontière. Je ne dois penser qu'à cela. Je serai loin de Paris, hors de France, sauvée. Mais dans quel état? Sans un sou en poche, déguisée dans une vilaine robe d'ouvrière. Obligée de baisser la tête pour éviter qu'on ne me reconnaisse, qu'on me dénonce. Mais pourquoi ces gens me détestent-ils? Ils veulent faire la révolution, qu'ils la fassent. Ils me laissent tranquille. Je ne suis pas si différente d'eux, après tout. Pourquoi dois-je fuir ma ville natale comme une criminelle ?
5 octobre 1789. Louise Elisabeth Vigée Lebrun a raison de fuir Paris, car elle est bel et bien en danger de mort. Mais elle a raison aussi de se demander pourquoi les révolutionnaires parisiens lui en veulent. Elle qui n'a ni château ni titre de noblesse, elle qui a connu, sinon la misère, du moins l'angoisse de la pauvreté. Plus de 20 ans ont passé, mais elle n'oublie pas. Mars 1767, elle a 12 ans et son père vient de mourir. Aussitôt s'effondre la petite prospérité qu'apportait à la famille le métier de Louis Vigée. La gêne s'installe au foyer, il faut vendre ce qu'on peut, envisager un déménagement, trouver de l'argent. Par chance, Madame Vigée découvre bientôt que sa fille a hérité d'un savoir-faire rémunérateur. C'est pourquoi elle la laisse suivre en toute liberté les cours que les peintres de l'Académie royale organisent dans leurs ateliers du Louvre.
Vite, Émilie, nous sommes en retard.
Attends-moi, Louise, je peux pas courir avec tout ce matériel. Mes pinceaux, mes couleurs. Tout est par terre. Je m'en suis mis plein la robe.
C'est pas grave. Tiens. Voilà, c'est réparé. Dépêche-toi, le cours va commencer.
Je peux pas y aller comme ça. Je suis pleine de tâches.
Et alors, un peintre, ça se tâche.
Je ne veux pas être peintre, moi. Juste passer le temps.
Moi, si. Je veux être peintre. Et surtout, ne pas manquer un cours.
Émilie !
Ah, mon père ? Vous êtes là ?
Eh bien, tu es surprise, tu ne sais pas que j'ai mon atelier au Louvre. Eh bien, te voilà drôlement arrangée.
C'est la faute de Louise, elle m'a fait courir.
Louise,
Louise-Elisabeth Vigée. Pour vous servir, monsieur Vernet.
Vous êtes la fille de Louis Vigée. Vous avez changé. Il faut dire que vous étiez si jeune la dernière fois que je vous ai vue. Aux obsèques de votre père.
Je m'en souviens. Comment vous oubliez, monsieur Vernet ? Mon père disait de vous que vous étiez le plus grand peintre de marine que la France ait jamais eu. Oh.
Louis Vigée était un ami et un excellent pastelliste.
Louise est artiste elle-même, savez-vous ? Bien meilleure que moi.
Artiste, vraiment ?
Son père lui a dit qu'elle deviendra un grand peintre. Elle y croit dur comme fer, hein, et travaille comme une damnée.
Si j'osais, monsieur Vernet, je vous demanderai des conseils en souvenir de mon père.
Vous voulez un conseil ? Suivez vos cours de peinture au Louvre. C'est une excellente occupation pour les jeunes filles. Mais vraiment, un grand peintre, n'y songez pas. Gardez plutôt votre santé pour votre mari.
Mais je...
Attention, vous laissez tomber votre carton.
Décidément, ce matériel est bien encombrant pour de délicates demoiselles. Ne vous baissez pas, je vais ramasser.
Merci.
Votre père était excellent dessinateur, vraiment.
Mais ce ne sont pas les dessins de mon père, monsieur. Ce sont les miens.
Je vous l'ai dit, Louise a du talent.
Ah, et cela, c'est aussi de vous ?
Oui, c'est un petit portrait d'enfant que j'ai peint sur bois à l'italienne. Oh, je sais, il manque encore de la technique. Si j'osais, me diriez-vous comment éclairer cette ombre ? Là. Je dois finir le tableau ce soir. Mon acquéreur vient en prendre livraison demain.
Vous vendez vos œuvres ? Mais quel âge avez-vous ?
17 ans. Non, je devrais pas, je sais, ce n'est guère correct pour une demoiselle, mais... Voyez-vous, nous avons peu de moyens et je dois payer la pension de mon petit frère, alors si des clients se présentent, je ne peux refuser.
Demoiselle, à vos
chevalets. Vite, Émilie. Ah.
Eh bien, quelle surprise. Une portraitiste de 17 ans. Capable de capter la lumière d'un regard, de comprendre la complexité d'un drapé. Je crois que je vais m'intéresser à cet enfant prodige. D'autant que sa famille est dans le besoin, si je comprends bien.
Joseph Vernet n'est pas le seul artiste que la précocité de Louise Vigée surprend et intéresse. Ses professeurs au Louvre et les amis de son père, tous l'encouragent avec bienveillance. En un temps où il n'est plus impensable pour une femme de faire valoir ses compétences. Louise n'a pas de maître, mais selon son propre mot, elle butine auprès des peintres qui veulent bien l'aider. Sa mère ne la laisserait pas fréquenter un tel milieu ni monnayer son talent si elle n'avait besoin d'argent. Heureusement pour l'apprenti, il importe surtout à Madame Vigée de pouvoir payer les études de son fils, ce que les portraits vendus par sa fille permettent. Aussi, dans l'appartement que la famille occupe près des jardins du Palais Royal, a-t-on aménagé une chambre en atelier. Par les fenêtres ouvertes, les promeneurs curieux peuvent admirer la virtuosité de cette demoiselle qui garde tout au long du jour les pinceaux à la main.
Voyez, Duchesse, c'est elle. Mais elle est jolie comme un cœur, n'est-ce pas ? Un peintre de 18 ans qui ressemble à une bergère de Greuze, voilà qui n'est pas banal. Approchons. Je veux voir ce qu'elle peint de plus près.
C'est le portrait de Madame de Bonneuil. Sa dernière commande. Sur les autres chevalets, vous pouvez voir celui de sa mère, qu'elle a réalisé à l'âge de 14 ans, et celui de son jeune frère.
Vous semblez très au fait, comte de Vaudreuil.
Je l'avoue, Duchesse, je me suis introduit dans le foyer de cette demoiselle Vigée pour des raisons diverses.
Dont votre passion pour l'art. Et celle des jolies femmes.
En vain, car elle est très sage. Lorsqu'un modèle la dévisage de trop près, elle a sa réponse toute prête. Levez les yeux, s'il vous plaît, je vous peins le regard perdu.
Voilà qui me plaît.
Ah, moi aussi. Elle est habile en relation, autant qu'en peinture. Et cette jolie bouche, ce nez mutin...
Comte, reprenez-vous. Parlez-moi plutôt de sa peinture.
C'est Fragonard en mieux. Voyez comme elle sait mettre de l'esprit dans un sourire et de la lumière sous la peau.
J'aime aussi la couleur des étoffes. Ce chatoiement en demi-teinte.
Vous voyez qu'elle en a plein son atelier. Elle aime à habiller elle-même ses modèles.
Mais... oh, il me semble que l'on aperçoit les dents sur ce portrait entre les lèvres. Voilà qui est fort nouveau. Peut-être un peu osé, non?
Vous trouvez? Je trouve que cela donne de la jeunesse à ces dames.
Qui s'en trouvent moins dignes, mais plus humaines.
J'aime à dire que Mademoiselle Vigée représente le nouvel esprit du temps. Moins affecté que l'ancien, prêt à changer.
Épargnez-moi ces remarques poseuses, je suis plus terre à terre. Il se trouve que je connais la comtesse de Bonneuil. Elle est moins séduisante que son portrait, mais on ne peut le nier, c'est ressemblant.
L'artiste nous a vus. Elle nous salue.
Présentez-moi, comte.
Vous présentez? Nul besoin de présenter la duchesse de Chartres. Mademoiselle Vigée sait qui vous êtes. Elle sait aussi que le palais royal vous appartient et que votre cousin est le roi de France.
Devant les artistes, nous ne sommes que d'humbles modèles.
Et de puissants protecteurs. Vous allez, bien sûr, lui ouvrir la cour de votre beau-père, le duc d'Orléans. Ce sont pour elle de grosses commandes en perspective.
Essayons une première fois. Et nous verrons ensuite.
Louise Vigée peint le portrait de la duchesse de Chartres et en effet, d'autres personnalités de la haute noblesse suivent. La jeune fille devient ainsi portraitiste à plein temps, tandis que monte le prix de ses services, si bien qu'elle attire l'attention de ses confrères. Plus précisément, celle de la corporation dans laquelle les artistes peintres sont obligatoirement regroupés. Or, les règles de cette organisation syndicale sont strictes. Seuls ses adhérents ont le droit de pratiquer la peinture contre rémunération. La jeune Louise, qui n'a pas encore 20 ans, se trouve par conséquent hors la loi.
Quel plaisir de te voir.
Tu n'as pas changé, Louise.
Toi, si. Te voilà mariée à présent. Laisse-moi te regarder. Une vraie dame. Avec une robe en soie et les cheveux poudrés.
Et toi, toujours les mains pleines de taches. Oh. Et même le nez.
Le nez? Ah, oh, suis ça, tu me suis mouchée avec mon chiffon. Oh, tant pis.
Ce n'est pas de cette manière que tu trouveras un mari.
Ah, oh, mais figure-toi que je n'aurai aucun mal.
J'ai entendu parler de tes soupirants. Le comte de Vaudreuil, dit-on?
Un amant, certainement pas. Je perdrai toutes mes commandes, tu le sais.
Des prétendants sérieux, alors?
L'un d'eux vient juste de sortir.
Je l'ai vu et reconnu. C'est le marchand d'art, monsieur Lebrun, n'est-ce pas?
En effet. Il a fait sa demande.
Qu'as-tu répondu?
Que je dois réfléchir. Il est bel homme. Et discuter d'art avec lui est un plaisir. Il m'a dit qu'il aimait ma peinture autant que ma personne. Je l'ai pris comme un compliment.
Il a fort mauvaise réputation, sais-tu? Il fréquente les filles, paraît-il.
Oui, je sais. Mais je voudrais tellement partir de chez moi.
Évidemment, pour une femme peintre, être Madame Lebrun, femme d'un fameux marchand d'art, oui, voilà qui t'offrirait des opportunités.
Pas Madame Lebrun. Je tiens au nom de mon père.
Il est vrai que tu es connue sous le nom de Louise-Élisabeth Vigée. Mais alors, Madame Vigée-Lebrun?
Pourquoi pas? Comme des associés dans une affaire commerciale.
Ce doit être mon père. Il doit passer me prendre.
Mais qu'est-ce que c'est que ce chahut?
Ah, la petite Louise. J'ai réussi à le calmer, mais il va revenir.
Qui ça?
Un huissier. Désagréable et accompagné d'un commissaire.
Et que voulait-il?
Fermer votre atelier sur demande de la corporation.
Je pensais pas qu'ils iraient jusque-là.
Et jusqu'où? Que se passe-t-il?
On veut m'empêcher de vendre mes portraits. M'obliger à ne faire de la peinture qu'un passe-temps inutile.
C'est injuste. Tant de gens de qualité réclament tes services.
Justement, qu'une femme se fasse payer plus cher que les adhérents de la corporation, cela indispose ces messieurs.
Ne nous affolons pas. Votre sexe ne plaide pas en votre faveur, c'est certain. Mais d'un autre côté, vous ne seriez pas la première à être reconnue par la corporation. Il faut simplement en amadouer les représentants les plus importants.
Mais oui, séduis-les comme tu as séduit les grands seigneurs.
Ouais.
Avec ton pinceau et ta conversation.
Je vais de ce pas leur rendre une visite. Ça ne peut pas faire de mal.
Attendez-moi, mon père, vous m'oubliez.
Émilie et son père ont raison. Il faut trouver un moyen. Ce serait trop bête. On me demande de partout. Et je n'aurai pas le droit de peindre. Allons. Ces messieurs ne pèsent pas lourd face à mes protecteurs. Et surtout, ils ne pèsent pas lourd face à mon obstination.
Il est en effet difficile de résister à l'obstination de cette jeune fille ambitieuse et enthousiaste. En octobre 1774, appuyée par Joseph Vernet, Louise Viger demande à entrer dans la corporation des artistes peintres, non sans avoir pris la précaution d'offrir à ses dirigeants leurs portraits. Ses prouesses techniques sont telles que sa candidature ne peut être refusée. Ainsi, poursuit-elle son ascension en toute liberté. Devenue Madame Viger-Lebrun en 1776, elle expose maintenant dans les salons de peinture et reçoit les éloges officiels des critiques. On vante la vérité, le sentiment, la vigueur de ses œuvres. Mais aussi, moins officiellement, on parle beaucoup de ses robes à l'antique et des turbans qu'elle noue dans sa chevelure décoiffée. On se presse dans son atelier et dans son salon. Si bien qu'un jour de juillet 1778, alors qu'elle attend son premier enfant, elle monte dans un carrosse à 6 chevaux en route pour Versailles.
Comment vous sentez-vous, Louise ?
Très bien. Juste un peu impressionnée.
Je vous remercie d'avoir accepté dans votre état.
Peut-on refuser une invitation de la reine ? Ne répondez pas, mon ami, l'évidence est là.
Certes. Il s'agit d'un ordre autant que d'une invitation.
Peu importe. De toute façon, si je n'étais pas ici, je serais devant mon chevalet. Et je le resterai jusqu'à la délivrance. Je ne peux m'en empêcher. Il faut que je travaille.
C'est ainsi que l'on vous aime.
Voilà qui est curieux. Pourquoi ces gens me saluent-ils ? Regardez, ils retirent leur chapeau, baissent la tête.
Mon ami, vous oubliez dans quelle voiture vous êtes ?
C'est chouette, bien sûr. Toutes ces dorures, ces laquais. On me prend pour une dame de la cour. S'ils savaient que j'ai gagné mon argent à la sueur de mon front, comme eux.
À un détail près, vos cachets sont les plus élevés jamais payés à un portraitiste.
Vraiment ? Mais je n'en sais rien. Mon mari prend tout l'argent que je reçois.
Ce mariage était une erreur. Je vous l'ai dit.
Avais-je le choix ? Votre amitié compte...
Ma tendresse, Louise.
Je ne vous suis pas insensible, mon ami, mais... Ne parlez pas de mon mari. Quels que soient vos sentiments pour moi, vous ne pouvez nier que j'ai pris la seule voie possible. Ma réputation exigeait que je sois mariée.
Lebrun vous vole votre argent.
Mais il apprécie mon travail et ne m'a pas obligée à abandonner la peinture, comme a dû le faire mon amie Émilie. Par-dessus tout, il me donne une respectabilité indispensable pour trouver de nouveaux modèles.
Après cette journée passée à Versailles, votre respectabilité sera établie bien mieux que par le sieur Lebrun.
La reine ne m'aurait pas demandé de faire son portrait si j'étais restée fille. Il est déjà extraordinaire qu'elle ait songé à moi, qui ne suis pas à l'Académie royale de peinture.
Non, mais vous êtes à la mode. La reine adore la mode. Elle a vu vos tableaux, elle en a apprécié la nouveauté et surtout le rayonnement que vous savez donner au visage. Même lorsque le modèle est quelconque.
Marie-Antoinette est loin d'être quelconque, m'a-t-on dit.
Un Anglais a écrit à son retour de Versailles qu'il y avait tant de grâce dans sa démarche qu'elle semblait glisser au-dessus du sol.
Mais que de vilaines choses ont dit aussi sur elle, qu'elle ruine le royaume, qu'elle s'enferme avec ses favorites.
Vous croyez à ces inepties ?
Je les entends murmurer dans mon salon et chez mes modèles. Des modèles proches de la famille royale, vous le savez.
Le duc d'Orléans.
Je ne vous ai rien dit.
Vous comprenez l'enjeu de ce portrait, Louise. Il vous revient de changer l'image de la reine. Ou plutôt, il vous revient d'exprimer en quoi la reine a changé.
Elle a changé ? C'est donc qu'elle prêtait le flanc aux critiques ?
N'en parlons pas. Vous aurez devant vous une femme que la maternité a transfigurée.
Nous avons cela en commun, elle et moi. Elle est mère depuis quelques semaines et je le serai bientôt.
Elle est plus que mère. Elle consacre tout son temps à cette petite fille qui vient de naître, au détriment même de ses devoirs.
Ça ne risque pas de m'arriver, comte. Je n'imagine pas un instant de négliger mon métier.
Nous entrons dans Versailles. Voici la cour d'honneur.
Ouvrez la vitre. Je veux voir. Versailles. Je peine à y croire. Je vais rencontrer la reine de France. Moi, Louise Vigée, petite bourgeoise de Paris. Mon père. J'aimerais tant que vous puissiez être à mes côtés. Je n'ose pas le dire, mais j'ai peur. Si je rate cette première séance de pose, je perdrai non seulement la faveur de la famille royale, mais celle de mes modèles les plus titrés et l'argent qu'ils me donnent. Ne pas se laisser impressionner. Bien se placer. Reculer pour saisir d'un regard l'ensemble des lignes. Prêter attention aux attitudes, aux petites manies. Elles font partie de la ressemblance. Parler, chanter, distraire le modèle, guetter les signes d'impatience.
Non seulement la reine ne s'impatiente pas durant ce premier jour de pause, mais elle prend aussitôt en affection la jeune femme enceinte qui se présente à elle sans perruque ni poudre, aussi jolie et aussi gaie que le dit sa réputation. Marie-Antoinette comprend qu'elle a en face d'elle une autre souveraine dont le règne sur la mode parisienne est sans partage. La rencontre sera suivie de beaucoup d'autres, matérialisée par plusieurs portraits dont les copies vont circuler dans les ambassades et toutes les cours d'Europe. Le portrait, qui deviendra le plus célèbre de Madame Vigée-Lebrun, est exposé au salon de l'Académie royale de peinture en 1783, où il fait scandale.
Monsieur Vernet, j'étais sûre de vous rencontrer. Vous avez vu ?
Je ne vois rien avec cette foule. Pourquoi tant de monde amassé devant un seul tableau ?
Venez, je vais vous montrer. Pardon ? Pardon ? Pardon. Vous voyez ? La reine en chemise.
Ah, voici donc le fameux tableau de ma petite Vigée.
Comment cela ? Votre petite Vigée ?
J'ai toujours appelé ainsi. Elle a beau être célèbre, elle reste ma petite Vigée. Ma meilleure élève. Maintenant, académicienne.
Elle est donc à l'Académie royale de peinture ?
Vous le savez pertinemment, chère madame. Le salon de l'Académie n'expose que les artistes qui en sont membres. Alors, pourquoi poser la question ? N'est-ce pas perfidie de votre part ?
Je l'avoue. Je ne doute pas que votre appui a poussé votre élève vers les sommets, mais admettez, monsieur Vernet, que l'intervention de la reine a été déterminante. Sans elle, Madame Vigée-Lebrun n'aurait pas été reçue à l'Académie royale.
Et son talent, vous ne le comptez pour rien ? Les critiques ont été unanimes pour louer la richesse des couleurs, la clarté des ombres.
J'ai entendu qu'elle savait fort peu le dessin des corps.
C'est curieux. Ceux-là même qui dénoncent le manque de connaissances anatomiques des femmes peintres leur interdisent d'étudier le nu académique d'après des modèles vivants.
Vous parlez d'envoyer des demoiselles peindre des hommes nus ?
C'est en peignant qu'on apprend à peindre.
Je ne m'étonne pas qu'avec un professeur comme vous, votre petite Vigée ait osé figurer la reine en chemise.
Pourquoi en chemise ? Là où vous voyez un dessous, je vois, moi, une robe de mousseline blanche, aux plis très élaborés, sous un effet de simplicité extrême. Quelle élégance !
Vous êtes bien le seul ici à voir de l'élégance dans ce tableau. Écoutez ces rires, ces moqueries.
Oh oui, alors.
Figurez-vous que, le cadre étant arrivé ici avant la toile, un plaisantin y avait accroché une pancarte sur laquelle on lisait « Madame Déficit ».
On me l'a dit. Louise aura beau montrer Marie-Antoinette sans bijoux, elle ne pourra rien contre le mécontentement.
Les Parisiens n'oublieront pas ce collier extravagant que, dit-on, elle s'apprête à acheter.
Faux. Elle a refusé de l'acheter, précisément. Mais sa nouvelle sobriété ne convainc personne.
D'autant que cette sobriété, comme vous dites, vient de ce que les diamants ne sont plus à la mode.
Vous parlez trop fort, madame.
Allons donc. Mon opinion est celle de tous dans cette salle.
La reine est une protectrice bien fragile de nos jours.
Louise n'y peut rien. Elle a beau multiplier les portraits flatteurs de Marie-Antoinette, l'image de la royauté est définitivement abîmée. La dernière commande de la reine est réalisée en 1787. Le tableau, majestueux, la représente en robe rouge sang, entourée de ses enfants. Au premier plan, le dauphin montre d'un geste grave le berceau vide d'une petite fille qui vient de mourir. Moins de 2 ans plus tard, il meurt à son tour, au moment même où les États généraux s'apprêtent à se constituer en Assemblée nationale. Bientôt, la reine fait enlever de Versailles ce tableau qui ravive sa douleur chaque fois qu'elle le voit, sans oublier de faire connaître à sa portraitiste les raisons qui la poussent à remiser le chef-d'œuvre. Mais Louise ne pense déjà plus qu'à son prochain modèle. C'est pour lui qu'en juillet 1789, elle se rend à Louveciennes, près de Paris. Étrange voyage dans le temps que celui-ci. Elle a rendez-vous en effet avec Madame du Barry, l'ancienne favorite de Louis XV, à présent retirée du monde. Elle n'a que 46 ans, mais à l'époque, une femme de cet âge est considérée comme vieillissante.
Ma petite Louise, merci de venir jusqu'à moi.
C'est toujours un plaisir de vous peindre, Madame du Barry.
Venez dans le pavillon installer votre matériel. Oh.
Ce pavillon est une merveille, madame. Vous aimez la simplicité des lignes antiques, n'est-ce pas ? On m'a dit que vous aviez chassé le rococo de Versailles, que vous détestez les robes à paniers et les faux cheveux.
Il semble que vous ayez mis vos pas dans les miens, si j'en juge d'après vos portraits. J'espère toutefois que vous n'adoptez pas les exagérations du nouveau style.
Un nouveau style ?
Celui de ce peintre qui fait des guerriers plus guerriers que nature.
Vous parlez de David.
David, c'est cela. Son serment des Horaces me fait peur, en vérité.
Le tableau est magnifique, pourtant. Et David, un grand peintre ?
Il honore trop la vertu. Ne faites pas de même, je vous prie.
Vous n'aimez pas la vertu ?
Cela dépend. La vôtre, oui. La tendresse, l'amour joyeux que vous célébrez dans cet autoportrait où vous tenez dans vos bras une adorable enfant.
Ma fille, Julie.
Elle s'appelle Julie ? Comme l'héroïne de Jean-Jacques Rousseau ?
Ah, oh, je ne sais pas. Je ne lis pas les philosophes. Leurs idées me font peur. Je suis un artisan, avant tout.
C'est cela que je voulais dire. Votre vertu est simple et gaie. Celle de David est solennelle et triste. Vous avez entendu ? On dirait une fusillade.
Cela vient de Paris. Les faubourgs sont très échauffés depuis que la Bastille a été prise.
Le gouverneur en a été massacré, paraît-il. Ma foi, je suis bien contente d'être loin de tout cela. Qu'en dit la reine ?
Je ne l'ai pas vue depuis le grand portrait que j'ai fait d'elle avec ses enfants.
On le dit magnifique. Bien sûr, la mort du dauphin le rend tragique. Pauvre femme.
Votre bienveillance vous honore, madame. On m'a raconté que Marie-Antoinette était méchante avec vous, du temps où vous étiez...
La favorite de Louis XV, dites-le. Oui, elle a été méchante avec moi. Mais à présent, c'est avec elle qu'on est méchant. Oh !
Le canon, maintenant ! Julie ! Pardon, madame. Il faut que je rentre à Paris. Je dois mettre ma fille à l'abri.
Et mon portrait ?
Je reviens. Promis !
Louise Vigée-Lebrun ne reviendra jamais finir le portrait de Madame du Barry. De retour chez elle, elle trouve une ville en pleine révolution. 8 jours après la prise de la Bastille, le surintendant des finances puis l'intendant de Paris sont massacrés devant l'hôtel de ville. Louise a peur. Elle se sait en danger car son nom est lié malgré elle à celui de la famille royale. Pourtant, elle ne se décide pas à partir. Elle veut être présente au salon de l'Académie qui doit ouvrir le 20 août 1789. Aussi, dans son atelier, continue-t-elle à peindre encore et encore en tâchant d'oublier le tumulte extérieur.
Ah, monsieur Vernet,
J'ai besoin de votre aide.
Je dois choisir les tableaux que je vais exposer au salon. Que pensez-vous de ce portrait de la duchesse d'Orléans?
Ah. Vous aurez du succès. Le duc d'Orléans est particulièrement aimé des révolutionnaires.
Alors c'est décidé. J'ai besoin de me faire aimer des révolutionnaires. On dit tellement d'horreurs sur moi.
Je les ai entendus. Il paraît que vous allumez votre feu avec des billets de banque, que vous avez donné un banquet qui a coûté 20 000 francs.
Ah, ce souper! Mais quelle farce! Il m'a coûté 15 francs, en réalité. Je me demande pourquoi on en parle autant. Je m'étais simplement amusée à déguiser mes invités avec les draperies de mon atelier pour faire un souper à la grecque. Nous avons mangé des gâteaux au miel et joué de la musique avec une guitare transformée en lyre. Il est vrai que l'illusion était parfaite sous les flambeaux. Si bien que mes amis en ont parlé autour d'eux. Et voilà qu'on m'accuse d'avoir tenu un banquet de 20 000 francs, mais vous rendez-vous compte?
Il n'y a pas de roses sans épines, Louise. Vous avez eu les roses, et maintenant...
C'est tellement injuste! Je peux tout supporter, même une révolution, mais pas les calomnies.
Ouais.
Je ne dors plus. Je ne mange plus. Hier, des inconnus ont déclenché un incendie dans nos caves. Mes gens sont intervenus à temps, mais...
Votre hôtel est trop luxueux. Il attire l'attention.
Mais je n'y suis pour rien. L'appartement où nous étions me suffisait. Mais mon mari a été pris de la folie de construire.
Malheureusement, c'est vous qui êtes célèbre, pas lui. Il est temps de vous faire oublier, Louise. Partez à la campagne. Ou mieux, à Rome. Vous en rêvez depuis si longtemps.
Mais je ne peux pas. Le salon va ouvrir bientôt. Et je veux y être. Que dites-vous de ce portrait d'homme? Je me demandais si...
Oh, quelle puissance! Exposez-le. Il démontrera que vous n'êtes pas seulement le peintre des sourires féminins.
Vous avez raison. Je suis fatiguée de peindre ces dames.
Comte de Vaudreuil.
Pardonnez mon intrusion. Je viens vous dire adieu, Louise. Le roi demande à sa famille de quitter la France. Je dois la suivre.
Quitter la France? C'en est donc là?
Pure précaution. Sitôt que le roi aura donné une constitution au peuple, l'affaire se calmera.
Mais qu'est-ce... Qu'est-ce que c'est?
Un cortège de protestation qui marche vers l'hôtel de ville.
Vous êtes venu avec votre voiture? S'il voit vos armoiries... Louise, éloignez-vous des fenêtres!
Ne vous affolez pas, monsieur Vernet. Louise ne craint rien. C'est une artiste. Son sort n'est pas lié à celui de ses modèles. Je vous laisse, mon ami. Au revoir.
Vous avez entendu? Vaudreuil ne semble guère inquiet.
Il est favorable à la Révolution, mais il quitte la France.
Ne mettez pas en doute son courage. Je le connais. Il défendra le roi jusqu'à la mort, s'il le faut.
J'en suis sûr. Et il a raison sur un point. Vous et moi sommes des artistes. Nous n'avons pas à rester sur le navire de la royauté quand il fait naufrage.
Je suis prête à peindre les hommes de la Révolution, s'il le faut. Puisque David le fait.
David? Sachez qu'il répand sans se cacher toutes les calomnies dont vous êtes victime.
Vraiment. Mais je peux vous croire, il est aimable envers moi. Nous échangeons des conseils de peinture. Mais comment est-ce possible?
Certains artistes font de la surenchère pour sauver leur gagne-pain.
Et d'autres expriment des opinions qu'ils étaient naguère obligés de cacher pour ne pas perdre leur clientèle. Je comprends.
Je dois vous quitter, Louise. Mais réfléchissez. Rien ne vous attache à la reine que votre talent et les médisances. Partez.
Après le salon.
Je ne sais pas si je vous reverrai, ma petite Vigée.
Voilà. C'est fait. Aujourd'hui, 5 octobre 1789. Je pars. Avec Julie.
seule et sans argent. Pourtant, mon succès a été grand au salon. Aurais-je dû rester ? Mais quelle décision ! Je laisse derrière moi la fortune que j'ai gagnée, des amis en danger de mort, une renommée intacte et tous mes tableaux. Bah, peu importe, j'ai encore mes mains, mes yeux. Je gagnerai ma vie, comme le font les menuisiers ou les violonistes, en allant où m'appellent les commandes. Je n'avais jamais quitté Paris ? Eh bien, commençons par l'Italie. Après, pourquoi pas, l'Autriche, la Prusse, l'Angleterre, la Russie. Il y a partout de belles dames, nobles et riches. Elles m'attendent et rien ne peut m'arrêter. Mon vilain mari me l'avait dit en m'épousant. Ton talent est ta seule vraie richesse. Nul ne peut te l'enlever.
Élisabeth Louise Vigée-Lebrun, peintre du siècle des Lumières, de Christelle Mouchard, avec Élisabeth Louise Vigée-Lebrun, Mélodie Richard, Émilie Vernet, Colline Rage, Joseph Vernet, Xavier de Guibon, le comte de Vaudreuil, Stanislas Roquette, la duchesse de Chartres, Pauline Ribat, la comtesse du Barry, Madeleine Meynier, Bernadette Paviot, la dame de l'exposition. Bruitage, Bertrand Amiel et Aurélien Bianco. Prise de son, montage et mixage, Marie Le Peintre et Pierre-Henri. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Réalisation, Cédric Aussire. Vous écoutez Autant d'emporte l'histoire sur France Inter. On continue tout à l'heure de parler d'Élisabeth Louise Vigée-Lebrun avec mon invité, l'historien Emmanuel de Varesquiel. Mais d'abord, Clara Isée, On s'aimera.
Chasse la tristesse de ce regard. Depuis quelques jours, je te sens hagard. Est-ce que tu la sens venir la fin de notre histoire? Mais si le manque d'ivresse nous sépare, moi je veux garder ton amour et qu'épare comme boussole dans le noir. Un jour je crois qu'on se retrouvera, je garderai ton cœur soldat. Quand la vie nous réunira, on s'aimera, on s'aimera. Je crois qu'on se retrouvera, je garderai ton cœur soldat. Quand la vie nous réunira, on s'aimera, on s'aimera. J'aime ta tendresse pleine d'espoir, tout ce que tu donnes sans le savoir, et la façon dont tu rêves le soir. Mais si le manque d'ivresse nous sépare, moi je veux protéger notre histoire comme boussole dans le noir. Un jour je crois qu'on se retrouvera. Peut-être que plus vaste on sera, alors on s'aimera, on s'aimera. Un jour je crois qu'on se retrouvera, je garderai ton cœur soldat. Quand la vie nous réunira, on s'aimera, on s'aimera. Je crois qu'on se retrouvera, je garderai ton cœur soldat. Quand la vie nous réunira,
France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire.
Emmanuel de Varesquiel, nous avons donc laissé Élisabeth Louise Vigée-Lebrun au moment où elle fuit Paris en diligence avec sa fille et sa gouvernante. Elle avait de bonnes raisons de partir, elle était vraiment menacée.
Elle est liée sentimentalement et, je dirais, moralement à la famille royale et à la reine dont elle qu'elle peint une vingtaine de fois les très grands portraits qui, d'ailleurs, ont été ont créé des scandales au salon, notamment Marie-Antoinette en Gaule, c'est-à-dire en chemise, en réalité en déshabillé, en 1783, et puis Marie-Antoinette et ses enfants qui représentent Madame Royale. Qui sera prisonnière au temple et qui est la seule survivante de la famille royale à l'issue de la terreur. Et puis les deux enfants, le duc de Normandie qui va mourir tragiquement. C'est une scène tragique en réalité, cette scène qui représente une mère et ses enfants. Mais c'est une scène en même temps qui dit quelque chose de très nouveau, qui relève de l'intimité féminine et qui relève de l'amour d'une maternelle. Mère pour ses enfants. On a parlé de ses autoportraits tout à l'heure. Elle se fait représenter à plusieurs reprises avec sa fille Judith, tendrement enlacée. Elle représente et elle peint sa fille. Il y a ce merveilleux tableau de Julie se regardant dans un miroir. C'est une enfant de 5 ans. Ce sentiment de l'enfance qu'éprouvent certaines femmes, cette nouvelle position de l'enfance dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, qu'on retrouve d'ailleurs dans la littérature à travers les contes moraux de Diderot, de Salomon Gessner et de beaucoup d'autres, est quelque chose d'extrêmement nouveau. C'est d'une très très grande modernité, cette naissance de l'intimité où la femme règne. Non seulement elle exerce un pouvoir d'influence politique sur les hommes dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, mais elle règne dans cette sphère de l'intimité, bien entendu sous l'influence de la nouvelle Héloïse, des grands écrits de l'Émile, des grands écrits de Jean-Jacques Rousseau, qui par ailleurs, dans d'autres écrits, comme le discours sur les sciences et les arts, va attaquer le pouvoir politique des femmes et profère des sentiments de méfiance à l'égard de ces influences féminines délétères du point de vue de Rousseau. Il y a cette espèce de paradoxe aussi, hein, du côté des écrits de Rousseau. Mais cette part, je dirais, de l'intimité qu'on retrouve dans la nouvelle Héloïse, je pense qu'Élisabeth Louise Vigée-Lebrun en est, du point de vue des portraits féminins qui ont été le sien, le porte-drapeau, hein, dans un sens. Elle va également peindre des hommes, bien entendu.
Oui, il est très beau portrait
elle vit
aussi.
Dans un milieu qui est un milieu de très grands mécènes, très cultivés, parfois érudits. Je pense à quelques amis qu'elle a en commun avec Jeanne du Barry, comme Jean-Benjamin de Laborde, comme le comte de Vaudreuil, dont il a été question, comme Calonne, dont elle va effectuer également le portrait, qui était le contrôleur général du roi, c'est-à-dire le ministre des Finances de l'époque, jusqu'en 1787. Elle va peindre certains de ses amis peintres, comme Hubert Robert. Il y a un magnifique portrait d'Hubert Robert avec ses pinceaux.
Vous parliez de paradoxe, Emmanuel de Varesquiel. Vigée-Lebrun, est-ce qu'elle est une artiste de la monarchie absolue, puisque c'est la portraitiste attitrée de Marie-Antoinette, de la cour, ou est-elle au contraire, ou en même temps, une artiste du siècle des Lumières?
Elle est les deux. Elle est une artiste du bonheur féminin. Et elle a certainement œuvré et travaillé à cette tentative de restauration de l'image de la reine, image déjà dégradée bien avant la Révolution française, pour toutes sortes de raisons sur lesquelles nous n'avons pas le temps de nous épancher. Mais par exemple, le grand tableau de 1787 qui représente la reine et ses enfants est une tentative de réhabilitation qui sera décriée au salon, hein, tellement l'image de la reine est dégradée. Mais elle va travailler, elle entretient, alors, toute proportion gardée, des relations de non, je peux pas dire d'amitié, mais en tout cas de fidélité sentimentale vis-à-vis de la famille royale. Elle est royaliste par sentiment beaucoup plus que pour des raisons politiques ou par rapport à un quelconque système d'absolutisme monarchique. Elle l'est sentimentalement, je pense. Et puis, elle l'a été aussi au début par ambition. Cette fascination qui est la sienne, elle est d'origine modeste, comme on l'a entendu, et cette fascination qui est la sienne pour les cours, qu'elle continuera à pratiquer en exil. La Révolution, c'est aussi, et on le retrouve merveilleusement dans ses souvenirs, un grand mouvement d'exil. Cette émigration qui va traverser toute l'Europe et qui va donner lieu à des récits de voyage absolument merveilleux. La fascination, par exemple, d'Elisabeth Vigée-Lebrun pour la nature bouleversée, pour les montagnes, pour l'effroi que provoquent les cascades, les précipices, les cimes. Tout ça, elle le restitue très, très bien. On est loin de Versailles. Ouais. Mais ça fait vraiment partie de cet univers de l'introduction de la nature dans le sentiment. Les Lumières, c'est pas seulement la littérature normative, le contrat social de Rousseau. Mmh. Les Lumières, c'est la montée en puissance du sentiment et du sentiment féminin.
Oui, on arrive au romantisme.
C'est très complexe, ouais. Les Lumières. Et c'est exactement une sorte de prolégomène au romantisme, ouais, qui va exploser dans la première moitié du 19e siècle.
Par rapport à la Révolution, donc on l'a entendu, Elisabeth Louise Vigée-Lebrun, elle est quand même menacée, elle a une mauvaise réputation, elle est riche, elle a un bel hôtel.
Tout simplement parce que son image est attachée à celle de la reine, oui, qui
c'est
est
un peu le même
personnage
genre de reproche,
absolument,
oui,
le plus détesté. Pour des raisons d'intimité, de cercle de la reine, de favoritisme, de dépenses exagérées du point de vue des fantasmes populaires.
Et oui, donc elle est associée à l'image de la reine. De cheminer avec des
et en
de
effet, dans les pamphlets qui sont publiés contre la reine, elle apparaît à plusieurs reprises. Et elle quitte la France en octobre 1789, probablement aussi parce qu'elle risque d'être physiquement menacée par la Révolution. Et elle va, en fait, voyager de cour en cour. Elle est la portraitiste des cours européennes, pas seulement de la cour de Versailles, mais de la cour de Rome, de la cour de Naples, de celle de Vienne, de Saint-Pétersbourg, de Londres. Et c'est en cela qu'elle est tout à fait extraordinaire. Parce qu'elle saisit une société qui est au bord de l'effondrement. Elle a saisi cette société dans ce qu'elle a encore de plus lumineux, de plus gracieux, de plus raffiné.
Oui, ce qui en révèle la fragilité encore plus.
Exactement. Et il y a quelque chose qui relève de la fragilité de ces modèles dans les portraits qu'elle restitue de ceux et celles qu'elle a connus et qu'elle a aimés pour certains. Et elle est d'une grande indépendance. La décision qu'elle prend de partir, elle vit séparément de son mari qui l'a exploité odieusement. Hein. Jean-Baptiste Lebrun est un marchand de peinture et il va se servir des talents de sa femme. Et elle va vivre de son art.
Elle peint
et de
énormément.
Son talent.
Et c'est ça qui est extraordinaire aussi avec cette femme, c'est qu'elle, toute sa vie, elle a travaillé depuis son enfance. Sa mère lui demande de travailler pour subvenir aux besoins de la famille. Elle va subvenir aux besoins de son mari. Et puis après, quand elle part en exil, elle est obligée de travailler. Donc elle peint énormément.
Mais ça aussi, c'est une révolution, moderne. Vous voyez. Alors on la situe comme une contre-révolutionnaire, mais c'est une révolutionnaire. Et elle est révolutionnaire aussi parce qu'elle est l'une des toutes premières à vivre de son art. Elle est l'une des toutes premières femmes portraitistes à être élue à l'Académie royale de peinture en 1783 avec une autre peintresse qui s'appelle l'Abbaye Guillard. Et alors même que jusqu'alors, les femmes n'étaient admises à l'Académie royale de peinture que parce qu'elles étaient spécialistes de ceci ou cela. Spécialistes de fleurs, de natures mortes ou graveurs.
Des sujets anodins en principe.
De sujets mineurs. Et là, elle rentre comme portraitiste.
Merci beaucoup, Emmanuel de Varesquiel, de nous avoir rappelé cette histoire. Et il faut évidemment aller regarder les tableaux d'Elisabeth Louise Vigée-Lebrun au Louvre ou ailleurs, et dans les livres, évidemment, qui reproduisent ces tableaux. Emmanuel de Varesquiel, votre dernier livre, Il nous fallait des mythes, La Révolution et ses imaginaires, de 1789 à nos jours, est paru en 2024 chez Talendier. Et sur Elisabeth Louise Vigée-Lebrun, je conseille la lecture de la biographie signée de Geneviève Haroche-Bouzinac, très belle biographie, Elisabeth Vigée-Lebrun, c'est son titre, édité chez Gallimard. Et par ailleurs, je signale une exposition intéressante, Paris 1793-1794, une année révolutionnaire, à voir au musée Carnavalet à Paris, jusqu'au 16 février prochain. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette émission qui était réalisée par Hein Van Feld, assistée de Frédéric Martin, à la technique Julien Chabassu. Vous pouvez vous abonner au podcast d'Autant n'emporte l'histoire sur l'appli Radio France. Vos commentaires, comme toujours, sont les bienvenus sur la page de l'émission ainsi que sur Facebook. Dimanche prochain, changement complet d'ambiance, nous irons à la rencontre de Louis Pasteur quand en 1885, il réalise la première vaccination contre la rage sur un petit Alsacien de 9 ans, Joseph Meister, mordu par un chien enragé. Un succès qui va contribuer à la gloire du grand savant français. 1885, Louis Pasteur réalise la première vaccination contre la rage. C'est dimanche prochain à 21h sur Inter et en podcast dès le samedi matin.